Lorsque l'apôtre Paul parle à l'église qui se trouve à Rome, il dit: « Je n'ai pas honte de l'évangile. » Est-ce qu'il y avait des raisons, l'apôtre Paul, pour avoir honte de l'évangile? Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, avant de devenir l'apôtre Paul, avant de devenir Paul tout court, il était Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, au nom de Dieu, au nom de ses convictions, au nom de ses certitudes, était un croyant convaincu. Convaincu que même c'était justifié d'appliquer la violence dans le but de préserver la saine doctrine. Il était tellement convaincu qu'il devait préserver la pureté de son peuple, qu'il n'a pas eu de problème à persécuter les Juifs qui commençaient à prêcher un autre message. Un message différent. Pas tout à fait un autre, mais un peu différent. L'apôtre Paul était ce qu'on dit aujourd'hui, on appelle aujourd'hui un djihadiste. Dieu, c'est comme ceci, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu n'es pas d'accord. Tu es un incroyant. Tu ne mérites pas de vivre, mais de mourir. Et c'est cet apôtre Paul-là que l'évangile, qui n'est autre que le Christ, a été cherché. C'est à cet apôtre-là, cette personne-là, Saul de Tarse, en mission pour faire du mal à d'autres personnes, que le Christ a interpellé. Elle lui a dit: je t'ai vu dans mon entreprise. Tu te vois à mes côtés. Je l'avais toujours entendu dire. J'avais moi-même aussi eu l'occasion de le dire à l'une ou l'autre personne, mais je ne me souviens pas de l'avoir réellement ressenti jusqu'à ce jour-là, le jour où j'ai rencontré Jésus dans mon chemin, ou plutôt le jour où je lui ai laissé prendre une place réelle dans ma vie. Bon, il faut dire que je n'étais pas un incroyant. Mais jusque-là, ce que je vivais avec lui, c'était, j'avais une affaire avec lui, hein, pas une véritable relation. Et vous savez comment c'est les affaires. C'est pas parce que vous avez une affaire avec quelqu'un, attention, mais vous avez déjà entendu parler de cela. Disons de par ouï dire, vous savez. Et en général, on ne bruite pas trop quand on a une affaire avec quelqu'un. Et moi non plus. Suivant ce que cela me convenait ou me semblait la meilleure chose, je pouvais dire: oui, je suis chrétien, ou je pouvais manifester des traits de christianisme si ça ne me portait pas préjudice. Je menais ma vie comme ça me semblait le mieux. Mais honnêtement, Jésus n'était pas, et de loin, le tout dans ma vie. Jésus était pour moi une culture, une habitude sociale. J'étais un peu chrétien comme je suis mexicain. Certains appellent cela être un chrétien non pratiquant. Mais ça devient intéressant quand on parle du christianisme, des chrétiens non intéressants. Est-ce que vous connaissez des chrétiens non intéressants? Pardon, non, pas des chrétiens non intéressants, ils sont tous intéressants. Des chrétiens non pratiquants. Et les non pratiquants, c'est encore plus intéressant que les pratiquants. Est-ce que je peux dire à mon épouse, qui est juste là, en fait, Daisy, je suis marié à toi. Et je t'aime de tout mon cœur. Je crois profondément en toi, mais je suis un conjoint non pratiquant. Et attention, ne réduisez pas l'effet des pratiquants non pratiquants à la sphère sexuelle. Non, c'est l'ensemble. Il faut comprendre pratiquant dans le sens des relations, de communion. Donc, est-ce que je pourrais dire: j'aime ma femme, mais je n'ai aucune communion avec elle, aucune relation? Oh, par politesse, bien sûr, je reste poli, je la respecte, mais de loin. Vous comprenez l'absurdité de la chose? Et c'est ce que je vivais avec Jésus. Avec Jésus, je vivais une relation de loin, pas de communion. Et pourtant, j'observais toutes les règles de l'Église. Ce n'est pas parce que j'allais tous les sabbats à l'Église que j'étais en relation avec lui. Je n'avais aucune communion. Je me disais lui appartenir. Et ce qui est pire, les personnes le croyaient. En fait, je prenais le nom de Christ en vain. Oui, je me déclare coupable. Mais un jour, quand dos contre le mur, je ne pouvais que constater quel est le préjudice que je voulais m'éviter en disant oh, « Oui, je suis chrétien, quand cela me convenait. » Le jour où j'ai constaté que ces préjudices, que ces problèmes que j'ai pensé éviter, moi-même, je m'étais mis dedans, tout seul. Le jour quand je me suis retrouvé sans personne pour m'aider. Le jour quand je n'ai plus su comment m'en sortir. Le jour quand je me savais, quand je me suis su loin de Dieu, tout en me disant chrétien des noms. Ce jour-là, je me suis rendu compte qu'il était lui à côté de moi. Lui, il était resté fidèle à une promesse que nous nous étions fait des années auparavant, lors de mon baptême. Quand je lui avais dit, « Oui, Jésus, j'ai vu que tu sois le centre de ma vie. » Les années étaient passées depuis. J'avais laissé le Seigneur aux marges de ma vie. Il signifiait pas grand-chose pour moi. Et je suis arrivé loin. Il n'y a pas pire moment que lorsque tu sais que tu n'as même pas toi-même pour t'aider. Et lui, il était là. Il était là malgré le fait que je l'avais éloigné. Il a quand même voulu de moi. Il y a un verset dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31, verset 3. C'est un verset formidable. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pour ça que je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Ce jour-là, j'ai compris ce que veut dire « Jésus t'aime ». Vous vous rappelez? Je n'avais entendu parler. Je l'avais à l'occasion dit à l'une ou l'autre personne « Jésus t'aime ». Mais c'est ce jour-là que je l'ai compris. J'ai compris que Jésus m'aime malgré tout, malgré mes erreurs, malgré mes errances, malgré mes rébellions, malgré le fait que je ne lui donne pas la place qu'il veut, mais que je lui donne, quand je lui donne une place marginale dans ma vie. Je suis même. Au plus profond de mon absurde christianisme non pratiquant, je suis lui, il s'est montré un sauveur pratiquant. Je suis sauve. Je me suis marié depuis. Et je peux dire que ce n'est que grâce au fait que j'acceptais vraiment Jésus dans ma vie que j'ai pu suivre le chemin qu'il m'a mis devant. Le mariage en faisait partie. La personne que j'ai avec moi en faisait partie. C'est Jésus qui m'a ouvert les yeux et qui m'a fait comprendre que si je ne me bougeais pas les fesses, j'allais la perdre. Il m'a fait comprendre que si je ne bougeais pas, j'allais perdre celle qu'il me montrait, celle avec qui, lui, il savait que je pouvais construire quelque chose. Elle et moi, et lui. Désir et moi, nous nous sommes mariés. Et en nous mariant, nous avons intégré, comme tous les époux d'ailleurs, une des plus belles écoles. mais une des écoles qui te mettent au défi peut-être plus que toute autre école. L'école de l'amour. Mais c'est l'école d'un amour qui ne se nourrit pas et qui n'est pas que sentiment ou passion. L'école d'un amour qui n'est pas que plaisir des yeux et des sens. Un amour qui n'est pas que des jours sereins et des nuits de plaisir. Nous avons signé, nous avons dit oui à une école où l'on apprend. Bien sûr, dans des difficultés, parfois dans des souffrances. On apprend que l'amour dont nous sommes invités à nous aimer, c'est un amour qui vient de Jésus. Plus fort que tout, car il ne dépend pas de l'humour du jour. Il ne dépend pas de ma perfection pour accomplir les tâches ménagères. Il ne dépend pas de combien d'argent je ramène à la maison. C'est un amour qui se renouvelle chaque jour, car il ne vient pas de moi. Il ne vient pas d'elle. Il vient du Christ. Et c'est l'amour que tous les mariés demandent à Dieu de leur donner quand il leur demande la bénédiction. C'est l'amour que tous les mariés promettent de chérir, de cultiver, de respecter, de défendre, et si besoin, de soi-même. Devant l'Éternel, comme on dit, devant l'autel, nous nous promettons de nous aimer, non seulement de notre amour, mais aussi et peut-être surtout de son amour à lui. Dans le langage biblique, amour est synonyme d'engagement. Engagement qui ne pourrait, qui ne saurait être brisé sans avoir tout tenté ensemble avec lui. Tout tenté pour le maintenir. On ne pourrait pas les briser sans avoir prié ensemble, sans avoir cherché de l'aide ensemble. Et peut-être même pas parce que nous avons envie, mais parce que nous nous sommes engagés à le faire. Mais pas seul, avec lui. Comment rompre notre alliance de couple sans avoir la certitude que celui qui nous a unis, nous a bénis, est d'accord? Mais s'il ne faut pas avoir peur d'entamer une telle démarche, même si elle semble difficile, parce qu'une telle démarche avec Jésus, en tant que couple, dans les moments difficiles, te permettra, vous permettra, nous permet, si on se laisse guider par lui, de comprendre quel est le chemin qu'il nous met devant et qu'il nous invite à suivre. Mais bien sûr, après te montrer le chemin, il te laisse libre de choisir. Car il t'aime. Car il est un Dieu pratiquant. Parce que son amour ne s'oppose jamais à ta liberté de choisir, à ta liberté de décider. Il y a un magnifique verset. L'apôtre Paul dit que en Jésus, Dieu s'est donné lui-même au monde. Que nous pourrions mettre ensemble avec l'autre verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils » et nous pourrions dire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné ». Aimer, ça veut dire se donner. L'amour. Voilà que j'entends assez souvent d'ailleurs des personnes dire dans les églises « L'amour, 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 mais on ne parle que d'amour ». Nous voulons quelque chose de plus solide. Moi, je dis, si seulement on parlait un peu plus d'amour, si seulement on pouvait en parler davantage, et surtout, le pratiquer, pour le comprendre, on aurait certainement moins de problèmes dans la société, dans nos églises, dans nos familles. dans nos couples, on ne parle pas assez d'amour. Dieu est amour. Est-ce qu'on arrêtera jamais de parler assez de Dieu, de ce Dieu qui est amour? Vous comprenez que si on passe l'amour en dessous et on met d'autres choses en priorité, on n'a pas vraiment compris ce qu'est l'Évangile. Si on parlait plus d'amour, peut-être qu'on serait plus fidèles les uns aux autres, et pas que dans le couple. On serait certainement plus solidaires, plus promptes à aider qu'à pointer du doigt, plus promptes à comprendre qu'à condamner la foi autrui parce qu'elle est différente, parce qu'elle lit la Bible différemment, parce qu'il la comprend différemment. Dieu est amour. Et nous ne pourrons jamais véritablement comprendre l'Évangile, comprendre la Bible, si nous faisons l'impasse sur l'amour. Sans amour, je ne serai pas là. Et je ne parle pas de l'amour entre mes parents. Je parle de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu et c'est l'amour de mon épouse qui m'ont sauvé. J'étais perdu. Mais mon Seigneur et mon épouse m'ont sauvé. Et je ne peux que dire merci Seigneur et merci Daisy. Elle est partie, je pense qu'elle est gênée. Vous savez, en tant que chrétien, nous parlons souvent d'amour. Et pardon, non, exactement le contraire. En tant que chrétien, nous parlons souvent de salut. Nous voulons être sauvés, n'est-ce pas? Oui, non, vous me faites douter là. Nous voulons être sauvés. Mais assez facilement, nous trompons au sujet du salut, il faut le dire. Parce que souvent, quand on parle du salut comme le fait de monter au ciel, comme le fait d'aller au ciel. D'ailleurs, quand on parle, est-ce que je vais être sauvé? Souvent, on veut dire, est-ce que je vais aller au ciel? Et souvent, puisqu'on veut vraiment aller au ciel, parce qu'on dit, je veux être sauvé, beaucoup de personnes, en nous demandant, est-ce que quand Jésus va revenir, je serai prêt? Est-ce que je serai sauvé? Alors, pour nous donner toutes nos chances, alors on se met à tout faire. Alors on se dit, il faut que je puisse observer toute la loi pour que le jour du retour du Christ, il puisse me trouver agréable à ses yeux, pour qu'il puisse me sauver. Donc on décale, on parle du salut comme quelque chose dans le futur. Et d'ailleurs, pour laquelle je pourrais peut-être faire quelque chose. Donc d'où que je m'efforce parfois, on s'efforce parfois à dire, il faut que je sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour que je puisse être sauvé. Des personnes qui veulent se trouver dignes devant l'Éternel. Et il n'a pas à avoir honte de vouloir se trouver digne devant l'Éternel. Mais c'est profondément inutile. Toute la bonté du monde, toute la bonté de l'humanité ne pourrait pas servir pour qu'une seule personne se trouve devant l'Éternel et que l'Éternel dise « Ah, puisque tu cumules toute la bonté de toute l'histoire du monde, toi tu es digne de moi. » Le salut dans la Bible, ce n'est pas ça. Bien qu'on puisse parler du salut dans la Bible comme le fait d'aller au ciel ou rencontrer le Seigneur quand il va revenir, le salut dans la Bible, c'est surtout une autre chose. Le salut dans la Bible, c'est ici et maintenant que je le reçois. C'est ici que ça se passe, le salut de Dieu. C'est ici que je reçois Jésus dans ma vie. C'est ici que je peux bénéficier de son pardon. C'est ici, déjà, maintenant, qu'il m'introduit dans la réalité de son royaume. Je suis sauvé ici et maintenant par la seule foi en lui. Par la seule foi en lui. Romains 1, versets 16 et 17. C'est sans honte, en effet, que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est la force dont Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui mettent leur foi en lui. Les Juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est comment que je suis rendu juste devant lui. C'est comment que je suis rendu digne devant lui. Cette justice vient par la foi et a pour but la foi. Comme l'affirme l'Écriture, c'est lui qui est juste, par la foi vivra. Vous pouvez imaginer la joie qu'a pu sentir l'apôtre Paul quand il a compris que pour être sauvé, il n'avait pas à continuer à vivre une vie où il appliquait la plus grande partie de son temps, pour ne pas dire tout son temps, toutes ses énergies, tous ses efforts à être une personne bonne et parfaite en suivant toutes les règles de la loi, pas seulement celles que Dieu avait données, mais d'autres qu'il s'était fait lui-même. Vous comprenez? Est-ce que vous pouvez imaginer la joie de Paul quand il a compris qu'il n'avait pas, lui, à chercher à être digne devant Dieu pour que Dieu veuille de lui? Pouvez-vous imaginer le sentiment de libération qu'il a dû expérimenter en comprenant que, malgré son extrémisme meurtrier, Jésus n'avait pas honte de lui. Jésus ne s'était pas éloigné de lui. Et qui plus est, il le voulait à ses côtés. Qu'est-ce que Paul avait-il fait pour mériter que Jésus vienne à lui et l'invite à suivre, à le suivre? Qu'est-ce qu'il avait fait? Dites-moi. Il n'avait rien fait. Il a fait tout le contraire. Qu'est-ce que moi j'avais fait de mon côté pour être acceptable aux yeux de Dieu le jour où il est venu vers moi? Ou plutôt le jour où je me suis retourné vers lui? Rien non plus. Sinon tout le contraire. Et pourtant, je suis pris dans ses bras, tel que j'étais, un faux chrétien. Quelqu'un qui prenait son nom en vain. Et pourtant, il a suffi qu'en mettant mon orgueil de côté, je reconnaisse mon besoin de lui pour qu'il vienne à moi. Il a suffi que je reconnaisse combien c'était illusoire de penser que sans lui, je pouvais vivre une vie pleine. Il a suffi que je reconnaisse cela pour qu'il me donne la plénitude de sa présence. Il a suffi que je reconnaisse mes erreurs pour que le pardon abondant qu'il avait déjà prévu à la croix inonde ma vie. Les personnes qui ont des enfants vont les comprendre plus facilement. Quand vos enfants font une bêtise, quand les enfants vous rendent tristes parce qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent ou devraient faire, combien de temps faut-il pour les pardonner? Les pardonnez-vous seulement à condition qu'ils vous demandent pardon? Ou les pardonnez-vous avant cela? N'est-ce pas plutôt le fait de venir nous dire pardon papa et maman qui leur permet de bénéficier d'un pardon qui était déjà accordé bien à l'avance, indépendamment de ce qu'il allait dire ou pas? Confesser nos fautes n'a pas pour but de faire que Dieu nous pardonne. Mais confesser nos fautes nous permet de bénéficier du pardon qui nous a été donné. Jésus ne m'a pas attendu de me trouver, n'a pas attendu de me trouver acceptable à ses yeux avant de mourir sur la croix pour moi. Il est mort bien avant cela. L'amour de Dieu, je ne le reçois pas parce que je le mérite. Il ne vient pas à ma recherche parce que je le mérite ou j'ai gagné sa faveur par mes bonnes actions. Il ne m'offre pas son pardon parce que j'ai manifesté par mes actes un changement. Il fait tout cela librement, parce qu'il le veut, parce qu'il te veut, parce qu'il t'aime. Il ne reste pas à tes côtés parce que tu lui es fidèle, mais parce que lui, il t'est fidèle. Et son pardon libère, il ne reproche rien. Son pardon fortifie, son pardon te reconstruit. Il te donne un avenir dès à présent. Ce pardon-là est la meilleure explication de ce que ça veut dire aimer. Le jour où j'étais le plus loin de lui et que je me suis tourné vers lui, je me suis senti aimé. Et ça ne dépendait pas de moi. Et ce que je me rends compte maintenant, c'est cela qui m'a permis, à mon tour, de pouvoir aimer, mais pas seulement le Seigneur, mais les personnes autour de moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pour ça que je te conserve ma bonté. L'amour de Jésus à ton égard est beaucoup plus qu'un sentiment. C'est un engagement. C'est un engagement éternel. Est-ce que c'est ça l'amour dont tu as besoin? Est-ce que c'est de cette délivrance-là dont tu as besoin? Est-ce que c'est de cette force-là dont tu as besoin pour faire face à tes soucis actuels? Je crois que oui. Et si ce matin le Seigneur te dit, accepte-moi, mais vraiment, sans faire semblant, alors je ne peux que te dire, accepte-le, sans faire semblant, qu'il règne pleinement dans ta vie. Laisse-le te libérer de tes craintes. Laisse-le être roi dans ta vie.